RFI, grand reportage.
C'est devenu l'épicentre mondial de l'épidémie de Covid-19 avec 19 000 morts et 180 000 cas. New York et ses 8 millions d'habitants entament leur 9e semaine de confinement. Une situation qui va durer alors que certaines localités de l'État devraient entamer un déconfinement en douceur dans les jours qui viennent. Durement touchée par l'épidémie et la crise économique, New York tourne au ralenti et les New-Yorkais qui ont connu le 11 septembre, l'ouragan Sandy, refusent de céder à la peur et trouvent des moyens de s'adapter à cette vie hors norme. Plongé dans le New York confiné, c'est un grand reportage de Lumna Anaki.
Lavez-vous les mains, portez un masque. Depuis 8 semaines, les messages passent en boucle dans le métro new-yorkais. Ce matin-là, sur le quai, une dizaine de personnes attendent, parmi elles Alizé Joumani.
Je m'appelle Alizé. Je travaille dans une pharmacie.
Alizé fait partie de ces employés dits essentiels qui continuent tous les jours à aller au travail malgré le confinement. Pour beaucoup, le métro est le seul moyen de transport possible.
Là, on est à bord du métro. Et dans le wagon où je me trouve, il y a 5 personnes. Ils sont à un bon mètre les uns des autres. Moi, je reste à bien 3 mètres d'eux.
Si le nombre de passagers a baissé de 90% ces dernières semaines, la suppression de nombreux trains complique parfois les choses et les passagers se retrouvent avec des métros bondés aux heures de pointe.
Quand il n'y a plus de place et qu'il n'y a pas assez d'espace entre les gens, tu dois rester debout, là où tu penses être le plus en sécurité. C'est pour ça que je garde toujours mon visage dans un coin, tournant le dos aux autres. C'est mon protocole de sécurité imaginaire.
Ces dernières semaines, des vidéos partagées sur les réseaux sociaux et montrant des wagons pleins à craquer ont provoqué de vives réactions. Il y a eu aussi ces photos de SDF dormant à 10-15 dans les rames de métro. Des polémiques qui ont poussé les autorités à instaurer des mesures exceptionnelles. Désormais, le trafic est suspendu toutes les nuits, entre 1h et 5h du matin. Et dans les 472 stations que compte la ville, des dizaines d'employés nettoient tout en profondeur.
J'ai remarqué que c'était plus propre. Je crois qu'ils utilisent de la Javel, parce que ça sent très fort. J'imagine qu'ils font de leur mieux.
Par peur du risque et de la foule, certains New-Yorkais ont trouvé d'autres moyens de se déplacer. En voiture, en vélo ou encore en prenant le ferry qui dessert Manhattan. En l'absence de touristes, les bateaux-taxis sont beaucoup moins utilisés et donc moins bondés.
J'ai de la chance d'avoir ça juste à côté de chez moi. Au moins en bateau, je suis sûre qu'ils font tout pour bien désinfecter, alors que dans le métro, il y a trop de choses à gérer.
Le ferry, c'est aussi l'option que nous choisissons pour aller du Queens à Manhattan. À bord, le port du masque est obligatoire. Il y a assez d'espace pour que la vingtaine de passagers s'installent à une bonne distance les uns des autres. Le bateau que nous prenons nous dépose au niveau de la 42e rue, à quelques dizaines de minutes de Times Square. On arrive sur la place qui est totalement déserte. Plus de touristes, plus de files d'attente devant les théâtres de Broadway, plus d'artistes de rue ou de mascottes. Normalement, on dit que c'est ici que résonne le cœur de New York. Aujourd'hui, la seule chose qui résonne, c'est le son des sabots de la police montée. Sur les écrans géants qui passent d'habitude des publicités s'affichent désormais des messages en hommage aux professionnels de santé, des messages de soutien aux New-Yorkais. Restez chez vous, nous sommes tous unis. Au milieu de la rue, un homme a l'air d'attendre quelque chose.
Je prends des photos. Je me dis que peut-être dans 20 ans, les gens parleront encore de ce Covid-19. J'ai un fils de 2 ans. Il ne sait rien de ce qui se passe en ce moment. Je vais garder les photos et vidéos que je prends et je lui montrerai un jour.
Dans un autre coin de Times Square, devant un hôtel, un groupe d'infirmières attire notre attention.
On est toutes infirmières, venues ici pour aider contre la pandémie. Je viens du Tennessee. Florida,
California. Et vous êtes là pour aider les hôpitaux new-yorkais?
Yes.
Moi, j'étais là l'année dernière pour le Nouvel An. Je me trouvais à quelques rues d'ici et toute cette place était bondée. Le fait de l'avoir déserte aujourd'hui, ça montre que les gens prennent la situation au sérieux. Et ça fait du bien de voir ça.
Kelsey, Monica et Anya font partie de centaines de professionnels de santé arrivés à New York il y a près d'un mois, au plus fort de l'épidémie de Covid-19. À l'époque, la ville déclarée épicentre mondial avait lancé un appel à l'aide. Tous les jours, le virus tuait plus de 500 personnes et près de 3000 nouveaux cas étaient enregistrés. Les hôpitaux étaient à la limite de la saturation.
Là d'où je viens, on a très peu de cas. Et j'ai vu à quel point cette maladie était sévère et à quel point il était difficile de traiter ces patients. Il était de mon devoir de venir ici pour aider.
Et vous avez laissé votre famille, vos amis pour venir ici malgré le risque ?
Oui, il a fallu beaucoup de prières et de soutien familial pour que je sois ici. Mais bon, que ce soit chez moi ou ici, je suis exposée. Au moins, ici, je fais quelque chose de bien.
Le sens du devoir, c'est aussi ce qui pousse Calvin Robinson à travailler tous les jours au volant de son camion de la poste.
Beaucoup de gens âgés attendent leurs médicaments, leurs vitamines. Les gens à la maison commandent des masques, des provisions, du désinfectant. J'ai conscience de jouer un rôle important.
Et vous avez plus de colis qu'avant ?
Ah oui, absolument. C'est comme pendant les périodes de fêtes. Je vois passer beaucoup de colis.
Pour protéger leurs employés et les clients, la Poste et les compagnies de livraison ont mis en place des mesures très strictes. Règle numéro 1, plus de livraison en main propre.
Maintenant, je laisse les colis au bureau d'accueil ou au réceptionniste. Sinon, je toque ou sonne à la porte et je le dépose devant.
Nous poursuivons notre balade dans ce New York confiné. Les salons de beauté, les boutiques de souvenirs, beaucoup de cafés et de restaurants sont fermés. Entre deux rideaux baissés, une laverie est ouverte. À l'intérieur, le propriétaire Tony porte un masque et des gants bleus. Il passe son temps à nettoyer toutes les surfaces avec un spray et désinfecte les machines toutes les 5 heures. Derrière le comptoir, son père fait les comptes. À 72 ans, il fait partie de la population à risque, mais tient à venir tous les jours malgré les protestations de Tony.
Dieu merci, ils n'ont pas de problème de santé, à part que c'est des Italiens têtus. Sinon, tout va bien.
Avec le confinement, Tony ne voit pas beaucoup de clients. La plupart lui déposaient leur linge en allant au travail dans les bureaux voisins. Mais sous son masque, il sourit et dit garder le moral.
Écoutez, la vie continue, il faut juste tenir le coup, être gentil avec les autres.
Un peu plus loin, sur la célèbre 5e avenue, des agents de sécurité se tiennent devant les magasins de luxe. Dans la grande cathédrale Saint-Patrick fermée, on sonne les coups de midi. Sur les marches en marbre, un SDF dort au soleil. En face, la célèbre place du Rockefeller Center est inaccessible, entourée de barrières. Pour beaucoup, le New York d'aujourd'hui ressemble à celui des films catastrophes d'Hollywood.
Je vis dans ce pays depuis 30 ans et je n'ai jamais vu une situation pareille. Ces rues désertes, on dirait une ville fantôme.
Tout est si effrayant. Je n'ai pas vu une personne sans masque. C'est une atmosphère étrange.
Sur l'une des avenues, un chantier est en cours. Interrompu pendant 5 semaines, les travaux de construction viennent tout juste d'être autorisés à nouveau. Les ouvriers du bâtiment sont d'ailleurs parmi les rares personnes que l'on croise dans les rues de Manhattan, visibles de loin avec leurs gilets jaunes et leurs casques. John Cassidy est l'un d'entre eux.
Personne n'est autorisé sur le chantier sans masque. Chacun se tient à 1 mètre des autres. On a du désinfectant, donc on se nettoie constamment les mains. On fait attention, c'est tout.
À ses côtés, l'un de ses collègues avoue que parfois, c'est un peu plus compliqué.
Parfois, c'est pas rassurant, mais on fait ce qu'on doit faire.
Ça vous fait quoi de voir New York comme ça ?
La circulation est tellement plus simple. Ça, c'est génial. Je rentre chez moi 1 heure plus tôt que d'habitude, donc ça me va parfaitement.
Ces ouvriers du bâtiment font partie des New-Yorkais à encore avoir un travail. Comme ailleurs aux États-Unis, l'arrêt de l'économie a provoqué une des pires crises économiques. Au total, 1 million d'habitants se sont inscrits au chômage à New York depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Pour éviter de licencier leurs employés, certains patrons d'entreprises ont dû s'adapter.
Hi, this is Jeremy.
Jérémy Guerassag et ses associés sont spécialisés dans la création de design pour magasins, restaurants et dans l'organisation d'événements. Il y a 2 mois, ils se sont retrouvés dans une situation difficile.
Quand le coronavirus est arrivé, on avait 130 salariés. Et le vendredi, où tout a commencé, où tout a dû fermer, on en avait licencié 105, ce qui est énorme. En l'espace de 2 semaines, c'était comme si 4 mois s'étaient écoulés.
Il décide alors de reconvertir leur usine et se lance dans la fabrication de matériel médical dont les hôpitaux new-yorkais ont cruellement besoin. L'ironie du sort a voulu que cette usine soit installée dans d'anciens hangars qui servaient déjà à la fabrication de matériel de première nécessité pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour des raisons de protocole sanitaire, nous n'avons pas pu accéder à l'usine. Jérémy nous répond donc au téléphone.
Quand on s'est retrouvé obligé de fermer, les associés et moi, on s'est demandé comment on pouvait utiliser nos capacités pour aider la communauté, et ce en première ligne, mais aussi garder nos employés.
Grâce à cette nouvelle activité, l'usine rappelle ses anciens employés et en embauche des dizaines d'autres, payés $30 de l'heure, un salaire conséquent en temps de crise. Aujourd'hui, plus de 250 personnes travaillent sur la production des protections médicales, 750 autres sont sur liste d'attente.
Le premier jour, sur les lignes d'assemblage, on a produit 1 200 masques. Le lendemain, 6 000 supplémentaires et ainsi de suite. Aujourd'hui, on est passé à la vitesse de croisière avec 28 000 masques par jour.
En plus des masques et des visières de protection, l'usine de Jérémy fabrique aussi des kits d'intubation pour les services d'urgence et de réanimation. Leur matériel, destiné initialement aux hôpitaux new-yorkais, est désormais envoyé vers d'autres États.
On reçoit des appels et des mails tous les jours. On a même dû mettre en place une équipe spéciale de 3-4 personnes juste pour répondre aux demandes et gérer les commandes pour des hôpitaux dans le New Jersey, Brooklyn, le Queens, tout New York, le Connecticut.
Et en temps de crise, ce jeune entrepreneur tient à préciser qu'ils ne sont pas les seuls à bénéficier de ce succès.
On travaille en partenariat avec des restaurants du coin qui nous livrent 160 repas chaque jour. Comme ça, on leur permet d'avoir de l'activité. On partage autant qu'on peut.
Des initiatives comme celle de Jérémy Guerassag, il y en a des dizaines depuis l'arrivée du coronavirus à New York. Un élan de solidarité salué à plusieurs reprises par le gouverneur de New York qui parle de l'esprit New York tough. En d'autres termes, un New Yorkais se révèle dans la difficulté.
Les New Yorkais sont comme ça. Ils sont durs, ils travaillent dur, ils s'amusent. Mais quand c'est la crise, ils se serrent les coudes et prennent soin les uns des autres.
Prendre soin des membres de sa communauté, c'est justement ce qu'a décidé de faire Michaela Sears.
Hi, Michaela?
Yes.
I'm Lubna.
Lubna, nice to meet you.
Nice to meet you, yeah.
But I suppose that's not allowed.
Yeah, how are you doing?
I'm doing well.
Elle nous donne rendez-vous dans un petit local du Queens où elle a installé une banque alimentaire. Le Queens est l'un des quartiers de New York les plus touchés par l'épidémie. Ce matin-là, la distribution alimentaire attire une centaine de personnes.
We got here this morning and there was a kind of a surprise line down the block.
On est arrivé ce matin et il y avait déjà une file d'attente jusqu'au bout de la rue. On essaie de faire entre 1 à 2 personnes à chaque fois pour limiter le risque et maintenir les distances.
So they can kind of still feel like they have a choice.
En 45 minutes, plus de $1 000 en provisions sont distribués. Dans ce quartier, environ 80% de la population est d'origine asiatique, arabe ou hispanique. Beaucoup n'ont nulle part où demander de l'aide.
It's a lot of folks who are undocumented.
Beaucoup de gens sont sans papier. Leur situation les empêche d'accéder au chômage ou à toute autre aide d'urgence. Certaines banques alimentaires demandent des pièces d'identité. Moi, je ne vérifie rien.
Aller dans une banque alimentaire, Ahmed Magdi s'y refuse. Ce vendeur de hot-dog égyptien a installé son stand près de Central Park. Arrivé à New York il y a un peu plus d'un an avec sa femme et ses 4 enfants, il dit être dehors par nécessité.
Je suis resté à la maison 1 mois et demi sans travailler. Mais la situation est devenue difficile, je n'avais plus de revenus. J'ai décidé de ressortir. Et puis je prends mes précautions.
Pour les vendeurs comme vous, la ville et l'État n'ont pas prévu des aides pour vous permettre de rester chez vous?
Non, ils nous ont dit de demander les $600 d'aide au chômage. Je me suis inscrit, mais j'attends toujours pour l'instant, depuis 1 mois et demi, et j'ai rien reçu. Parfois, les gens me remercient d'être là. Ça leur permet de trouver à boire et à manger, parce qu'il n'y a plus beaucoup de vendeurs ici.
Depuis le début du confinement, les revenus d'Ahmed Magdi ont diminué de 90%. Il y a des jours où il ne vend rien du tout. À l'intérieur de Central Park, refuge depuis toujours pour les New-Yorkais fuyant la pollution sonore incessante de la ville, certains viennent le temps d'une balade ou d'un jogging se changer les idées loin de la réalité Covid-19. Sur l'une des places mythiques du parc, quelqu'un joue de la guitare.
Whatever that beautiful instrument is, it's just, that's really nice. I like that a lot.
It's kind of nice to just escape and like.
Ça fait du bien de s'échapper un peu, sentir l'air libre, la nature, l'air est pur.
Nature, it feels just cleaner.
I feel like we would lose our.
Je pense qu'on deviendrait fou si on n'avait pas le parc. La musique est belle, mais avec un goût amer parce que ce n'est plus le New York qu'on connaît. La ville est tellement silencieuse, c'est plus pareil.
Assise sur un banc, Kali Chafine, elle, profite du parc pour enlever son masque. Elle vient ici tous les jours, depuis 2 mois, pour promener son chien, mais surtout pour se sentir moins seule.
J'ai vu des gens en vrai, mais bon, ce n'est pas pareil que d'aller chez un ami, voir un film, manger ensemble, ou de se retrouver dans un bar, prendre des verres.
Face à elle, Ralph et son saxophone font partie des habitués du parc. Malgré le confinement, il continue à venir pour jouer de la musique comme il le fait depuis 25 ans.
Vous ne pouvez pas demander aux gens de rester enfermés des mois, c'est de la folie. La vie doit continuer sans prendre de risques, il ne faut pas non plus être stupide.
C'était important pour vous de continuer à jouer de la musique ?
Absolument, on doit faire du mieux qu'on peut, parce que ça va prendre du temps de retrouver une espèce de normalité.
Sur l'étui de son saxophone, Ralph a collé une phrase. « See you on the other side », rendez-vous de l'autre côté. Un optimisme partagé par tous les New-Yorkais que nous avons rencontrés.
J'étais là durant Sandy et le 11 septembre, et le fait d'avoir survécu à ces deux-là me rappelle qu'on survivra à ça aussi.
Aujourd'hui, les chiffres des contaminations de Covid-19 sont en baisse constante. New York voit le bout du tunnel, mais si d'autres parties de l'État entament déjà un déconfinement progressif, la ville qui ne dort jamais devra attendre encore un peu avant de sortir de sa sieste.
Plongé dans le New York confiné, un grand reportage de Lumna Anaki, réalisation Pierre Chaffange. Niggas talk shit, reminiscing about the last time the task force flipped. Niggas be running through the block shooting. Time to start the revolution. Catch a body head for Houston once they caught us off guard. The Mac-10 was in the grass and I ran like a cheetah with thoughts of an assassin. Picked the Mac up, your brother's back up. The Mac spit, lead was hitting niggas. One ran, I made a backflip. Heard a few chicks scream, my arms shook. Couldn't look, gave another squeeze. Heard it click, yo, my shit is stuck. Tried to cock it, it wouldn't shoot. Now I'm in danger. Finally pulled it back and saw 3 bullets caught up in the chamber. So now I'm jetting to the building lobby. And it was full of children, probably couldn't see as high as I be. It's like the game ain't the same. Got younger niggas pulling the triggers, bringing fame to their name and claim some corners. Crews without guns and corners. In broad daylight, stick up kids, they run up on us. 4-5s and gauges, max and fat. Same niggas that catch you back to back, snatching your cracks in black. Yo, is a snitch on the block, getting niggas locked. So hold your stash to the coke price drop. I know this crackhead who says she gotta smoke nice rock. And if it's good, you bring your customers and measuring plots. But yo, you gotta slide on a vacation. Inside information keeps large niggas erasing and they wild spacing. It drops deep as it does in my breath. I never sleep, cause sleep is the cousin of death. Beyond the walls of intelligence, life is defined. I think of crime when I'm in a New York state of mind.
Ce samedi,